Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 4 mars, le Pas-de-Calais confiné le week-end. Jean Castex l'annoncera officiellement tout à l'heure. Nous irons à Saint-Omer, où certains sont amers. Nous ferons le point sur la carte des 20 départements les plus sensibles et nous écouterons les impatiences, celles des maisons de retraite médicalisées qui veulent un assouplissement vu le niveau des vaccinations, celles des restaurateurs qui négocient la mise en place d'un protocole de réouverture. La justice reconnaît enfin mon innocence. Première déclaration d'Édouard Balladur. Il vient d'être relaxé du financement occulte de sa campagne présidentielle en 1995. En revanche, François Léotard, son ancien ministre de la Défense, a été condamné par la Cour de justice de la République à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Dans RTL Midi aussi, 8 millions de Français souffrent d'obésité. Comment stopper la prise de poids chez nos enfants et nos adolescents? Nous en parlerons avec le docteur Plumet, nutritionniste. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Alors comme ça, vous nous avez remis le couvercle.
Oui, c'est vrai que c'est bien nuageux, hein, sur toute la moitié nord du pays, avec quelques averses, surtout vers les frontières du Nord, entre l'Alsace, la Franche-Comté et le Nord de l'Auvergne. Il y a même quelques flocons sur les Vosges. Dans le Sud, un ciel voilé, alors parfois lumineux quand même sur une partie du Sud-Ouest, et c'est du beau temps entre PACA et Corse. En revanche, sur le Golfe du Lion, encore pas mal de nuages. Les températures, elles sont en chute libre, surtout au Nord, comprises entre 7 à Lille et 13 à Mulhouse et jusqu'à 18 à Toulouse.
La question du jour sur RTL.fr. Croyez-vous à un retour à une vie plus normale, peut-être dès la mi-avril, comme le disait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal? Vous êtes pour le moins sceptique, 76% de non, 16% de oui. Bonjour Pascal
Proulx. Bonjour Christelle, on l'espère en tout cas. Vous le savez sans doute, un jeune homme de 21 ans mis en examen quelques jours après l'agression d'un photojournaliste dans un quartier sensible de Reims. Le suspect a déjà été condamné à 8 reprises. Il est de nationalité algérienne. Oui, vous avez bien entendu, 8 reprises pour des faits de violence en réunion et des vols avec effraction. Comment un individu de nationalité algérienne peut-il être encore sur le sol français alors qu'il a été condamné 8 fois? Eh bien, c'est une question que nous poserons aux auditeurs. Vous pourrez évidemment parler des reconfinements ou des confinements qui se poursuivent le week-end à Nice, Dunkerque et dans le Pas-de-Calais. Le retour à la vie normale, vous l'avez dit. Nicolas Sarkozy, hier soir, qui a dénoncé une injustice profonde. Vous aurez également la parole. Noël Le Graët, qui a eu peut-être un mot malheureux. Il répondait à une question sur les tensions entre la sélectionneur Corinne Diacre et certaines joueuses. Et il a dit aucun match perdu. Voilà ce que je retiens. Donc, elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Eh bien, c'est peut-être une phrase qui fera parler tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Le gouvernement fait de la dentelle. Après Nice et Dunkerque, c'est le Pas-de-Calais qui sera placé en confinement le week-end. En plus du couvre-feu la semaine, la région parisienne ne sera pas concernée. Jean Castex tiendra une conférence de presse à 18h. Les élus du Pas-de-Calais y étaient favorables. Mais à Saint-Omer, eh bien, certains le vivent comme une injustice, Franck Hanson.
Oui, sur le marché, dans les faubourgs de Saint-Omer, les habitants sont déjà préparés à ces nouvelles restrictions, désabusés comme cette mère de famille qui vient d'un village voisin.
Pour regarder ce qui se passe à Paris, sur les quais de Seine, je trouve ça insupportable, alors que nous, on est en race campagne, on habite au milieu des champs, on doit porter les masques dans le village. On vous laisse le droit d'aller travailler, on leur oblige d'aller à l'école, d'être dans un bouillon de culture, et à côté de ça, le week-end, on nous enlève tous nos plaisirs. Plus de sortie, juste bon à bosser.
Dans ce secteur au Domarois, le taux d'incidence Covid continue de grimper, avec un variant anglais qui touche près de 90% des contaminations, comme à Dunkerque. Sur la Grand Place, Marc, un brocanteur, a déjà prévu de quoi s'occuper ce week-end.
J'ai rangé mon bordel. Je suis brocanteur à Saint-Omer et j'ai pas beaucoup de temps pour ranger. Moi, c'est inquiétant. Il faut subir ça comme une hospitalisation.
Mais pour les commerçants, c'est un coup dur, d'autant qu'il va encore falloir s'organiser dans la précipitation, regrette Séverine dans son salon de coiffure.
Ça va être encore compliqué, c'est-à-dire que ce soir, il va falloir appeler tous les clients de samedi. C'est tout à la dernière minute et c'est une organisation qui est remise en jeu, donc c'est fatigant.
Avec ces nouvelles mesures, les élus du Pas-de-Calais attendent aussi de nouvelles livraisons de vaccins dont ils ont été largement sous-dotés jusqu'à présent.
Un reportage Franck Hanson à Saint-Omer. Une vingtaine de départements où le virus circule de manière active sont encore sous haute surveillance. Jean Castex devrait présenter ce soir une nouvelle carte. Mais quelles sont les données dont vous disposez déjà, Sophie Jousselin?
Alors sur cette vingtaine de départements, il y a d'abord ceux où la situation s'est aggravée depuis la semaine dernière. On vient de parler du Pas-de-Calais, mais il y a aussi les départements du Nord et et de l'est de l'Île-de-France. La Seine-Saint-Denis avec un taux d'incidence de 405 et un taux de positivité le double de celui de la moyenne nationale. Le Val-de-Marne qui a pris 100 points d'incidence en une semaine pour atteindre 362. Pour autant, la région ne devrait pas passer sous confinement le week-end. Et puis, il y a 4 départements qui ont franchi cette semaine le seuil d'alerte fixé à 250. L'Aube qui est passé de 185 à 256 en 7 jours. Les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, et l'Aisne. À côté, il y a les 3 départements où la situation s'améliore un peu, les Alpes-Maritimes où l'incidence est en baisse, mais qui reste 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale, les Bouches-du-Rhône, l'incidence a baissé de 10 points, et la Moselle, passée de plus de 300 à 287. Pour ces départements, il devrait y avoir un statu quo, mais certainement pas de relâchement des mesures de restriction, notamment pour les communes de la Côte d'Azur, déjà sous confinement le week-end.
Et Emmanuel Macron veut rendre le vaccin obligatoire pour les personnels soignants dans les hôpitaux et les EHPAD, d'après nos confrères des Échos. Le chef de l'État l'a demandé hier en Conseil de défense, soulignant que le Covid était devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital. Dans les maisons de retraite médicalisées, plus de 83% des pensionnaires ont reçu une première dose de vaccin, 60% les 2 doses. Et le CINERPA attend avec impatience des assouplissements pour les personnes âgées qui viennent de passer une année en réclusion. Florence Arnaise-Momé, la déléguée générale du syndicat.
L'assouplissement des visites dans les lieux de vie et dans les chambres, ça c'est le point numéro 1. Les familles nous disent « je veux pouvoir rencontrer mon papa, ma maman, mon mari dans un lieu intime ». Le retour également, ne serait-ce qu'au contact physique, de se tenir la main. Ensuite, il y a l'assouplissement des règles de vie à l'intérieur de l'EHPAD. Nous devons pouvoir recommencer les repas familiaux, faire des animations un petit peu plus ludiques. Enfin, évidemment, les sorties à l'extérieur. L'interdiction qui leur est faite de quitter l'EHPAD, elle n'est plus justifiée. Il y a la sortie pour faire un tour dehors et avoir le vent sur le visage. Et remettre les Français qui sont en EHPAD sur un pied d'égalité avec les Français qui sont à domicile.
Voilà les impatiences de Florence Arnaise-Momé avec Sophie Orange. Dans un instant, les restaurateurs, eux aussi, s'impatientent.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Dans ce jour sans fin, il y a donc enfin un horizon, un retour à une vie plus normale, peut-être dès la mi-avril, disait hier Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ajoutant « après un peu de gros temps ». Une vie plus normale, c'est la réouverture progressive des salles de spectacle, des cinémas, des salles de sport. Le gouvernement négocie son pass sanitaire au cas par cas. Alors comment les restaurants peuvent-ils envisager de rouvrir ? Eh bien, nous sommes avec Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants. Bonjour.
Bonjour Christelle Robière, bonjour à vos auditeurs.
Vous avez un horizon, enfin, j'imagine que c'est déjà un soulagement, non ?
Écoutez, on a un horizon, mais on n'a pas de date pour l'instant.
Bien sûr.
Nous avons rendez-vous donc demain soir avec le Premier ministre pour discuter des conditions de réouverture. Et ça fait suite à sa demande, puisque nous lui avons envoyé hier ce que nous pensions être les recommandations pour une réouverture. Une réouverture que nous souhaitons au plus vite, bien entendu, mais avec toutefois un délai de prévenance, nous avons évalué à 3 semaines. Pourquoi 3 semaines ? Parce qu'il va nous falloir former tout notre personnel. Rendez-vous compte que nous avons du personnel qui ne travaille pas depuis près d'un an.
Oui.
C'est un peu comme les sportifs, si vous ne pratiquez pas votre art, eh bien, vous êtes un peu rouillé. Donc il va falloir retrouver tous les gestes, et Dieu sait si c'est important dans nos métiers, et puis également tout ce qui concerne nos matériels. Donc passer ces 3 semaines, donc faire une réouverture qui soit sécurisée.
Alors justement, comment vous la sécurisez, cette réouverture vis-à-vis de vos clients ?
Ce sera la remise en place du protocole sanitaire renforcé que nous avions donc renégocié au mois de septembre dernier avec, je le rappelle, les quelques mesures. C'est 6 couverts, pas plus par table, 6 personnes, pardon, 1 mètre de distance entre les tables, le port du masque obligatoire pour le personnel, mais aussi, bien entendu, pour les clients, et ce, jusqu'à l'arrivée du premier plat.
Ça resterait intact, Didier Chenet, par exemple. On peut pas imaginer d'avoir 2 mètres d'écart entre chaque table, puisque maintenant on dit qu'avec les variants, quand même, il y a plus de contamination possible.
Non, je vous le dis tout de suite, 2 mètres, c'est inconcevable. C'est absolument pas, si vous voulez, on ne peut pas assurer la rentabilité d'un établissement. Rendez-vous compte, 1 mètre déjà, nous avons diminué à peu près de 50% la capacité donc de nos établissements.
Bien sûr.
Si vous mettez 2 mètres, ça fait un quart. Un quart, c'est impossible. Donc, si vous voulez, ceci dit, notre protocole sanitaire sera renforcé par l'application Tous Anti-Covid et le QR code de traçabilité qui va être mis donc dans cette application et qui est développée par le gouvernement en collaboration avec les professionnels.
Et pour ceux qui n'auraient pas l'application, est-ce que vous allez remettre en place les cahiers où on inscrit ces coordonnées ?
Oui, on mettra, c'est prévu, les cahiers, l'affichage de la jauge à l'entrée des restaurants, enfin tout ce qui sera fait pour sécuriser à la fois notre personnel, les clients et tout l'environnement. Alors cette réouverture, en plus, nous la proposons comme étant, ce que l'on dit, pragmatique, progressive et territorialisée. Je m'explique. Nous allons proposer dans un premier temps que l'on puisse rouvrir nos établissements pour le déjeuner.
Seulement le déjeuner, oui.
Voilà, déjà, c'est une première. Maintenant, si le gouvernement nous dit on fait l'expérience déjeuner et dîner, très bien. Mais on est prêt à ce type d'expérience, donc, et territorialisée également. Nous savons que nous avons des zones en France qui ont été très peu touchés par le virus, dans lequel le virus circule très peu et qui sont dans des conditions sanitaires aujourd'hui qui répondent aux critères qu'avait fixé le président de la République. Par conséquent, je pense à l'arc atlantique essentiellement, qui est aujourd'hui donc tout à fait sécurisé, enfin qui est sécurisé. Donc ça c'est un point qui est important,
oui.
et c'est pour ça. Maintenant, il faudra bien aussi, et ça c'est très important, qu'à cette réouverture, le gouvernement nous accompagne, parce que si nous assurons le côté sanitaire, il faut que nous ayons aussi l'assurance du côté économique, et donc le maintien du chômage partiel pour le personnel que nous ne pourrons pas réembaucher tout de suite, parce que ayant une activité de moitié, on va rembaucher le maximum, mais nous en aurons quelques-uns qui attendront un petit peu, et puis également un fonds de solidarité aménagé, là aussi, pour que nous puissions atteindre, comme l'a proposé le président de la République, le point mort, ce qu'on appelle le point mort, l'équilibre économique de nos entreprises.
Donc des efforts financiers, vous demandez encore au gouvernement. Ah, je suis désolé, on arrive à peu près à la fin de cette interview, donc juste en une phrase, dernière proposition.
Une grande campagne de vaccination de nos salariés. Nous sommes convaincus que c'est la vaccination qui nous sauvera de la situation dans laquelle on est. Et donc, pourquoi pas nos salariés aussi, vous en avez parlé pour les EHPAD, ben pourquoi pas nos salariés dans la restauration, l'hôtellerie.
Vaccination pour les salariés et une réouverture progressive. Merci beaucoup Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants. Merci pour toutes ces précisions. En Allemagne, les libraires et autres fleuristes pourront rouvrir dès lundi dans tout le pays. Angela Merkel a dû accepter un assouplissement car l'opinion s'impatiente. À 91 ans, Édouard Balladur est relaxé pour le financement de sa campagne électorale perdue en 1995. En revanche, la Cour de justice de la République condamne son ancien ministre de la Défense, François Léotard, à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. Anne Le Hénaff, pourquoi cette différence ?
Eh bien parce que la Cour de justice de la République a estimé que François Léotard, en tant que ministre de la Défense, était intervenu pour augmenter les rétrocommissions versées lors de contrats de vente d'armement au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. Pour ajouter des intermédiaires, il a joué un rôle central et moteur. Mais il n'y a pas de preuve qu'Édouard Balladur, son premier ministre de l'époque, ait donné des instructions pour cela à la grande satisfaction de son avocat, maître Félix de Bélois.
25 ans après les faits, 25 années pendant lesquelles Édouard Balladur a eu à subir toutes les rumeurs, les calomnies, Édouard Balladur est enfin innocenté. Il est donc désormais jugé qu'Édouard Balladur n'a jamais mis en place ni participé à un système frauduleux de rétrocommission. Qu'Édouard Balladur n'a pas eu recours à des moyens illégaux pour le financement de sa campagne présidentielle de 1995.
L'ancien Premier ministre n'est donc pas responsable, même indirectement, de l'attentat de Karachi qui a coûté la vie à 11 Français en 2002. Point de départ de cette enquête sur le financement de sa campagne électorale. Pas de réaction du côté de François Léotard. Ni lui ni Édouard Balladur n'étaient présents ce matin à la lecture du jugement.
Anne Le Hénaff en direct du Palais de Justice de Paris pour RTL. Un policier du commissariat de Roubaix accusé de viol par une femme de 35 ans. C'est une information RTL. Elle était venue porter plainte pour violence conjugale et le fonctionnaire qui l'a reçue l'aurait ensuite harcelée avant de la violer, Guillaume Chiez.
Oui, le fonctionnaire visé par la plainte aurait d'abord croisé cette femme dans les couloirs du commissariat quelques jours plus tôt. Il se serait ensuite débrouillé pour retrouver ses coordonnées. Un numéro de téléphone très certainement noté dans le procès-verbal pour violence conjugale. Selon la plaignante, le policier l'a ensuite inondé bombardée de messages grivois. Elle explique que pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de harcèlement, elle accepte que l'homme vienne chez lui. Cela se passe avant-hier à 14h, mais une fois entré, le policier lui impose une fellation, puis la viole. À 21h, la femme prévient le commissariat. Elle a déposé plainte hier matin. L'IGPN, la police des polices, a été immédiatement saisie. Pour l'heure, la victime est en train de passer des examens médicaux. Le policier mis en cause, lui, n'a pas encore été entendu.
Information RTL, Guillaume Chiez. À Bordeaux, le mineur de 16 ans qui avait été grièvement blessé par des policiers après avoir forcé un barrage dans la nuit de lundi à mardi a été mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'homicide. Il a été placé en détention. Comment prévenir l'obésité dès le plus jeune âge? On en parle dans un instant avec notre invité, le docteur Laurence Plumet.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
8 millions de Français, 8 millions sont obèses. C'est une maladie chronique qui affecte notre santé physique et morale. On l'a vu très cruellement avec la pandémie. Depuis le mois d'octobre, 45% des patients en réanimation sont obèses. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité, on voudrait faire de la prévention et parler des enfants. Et nous sommes avec le docteur Laurence Plumet, qui est médecin nutritionniste spécialisé dans ce domaine. Bonjour docteur.
Bonjour.
À partir de quel âge doit-on s'inquiéter?
Allez, on va dire à partir de l'âge de 4, 5 ans, 6 ans. D'abord, il faut être vigilant sur l'apparence de l'enfant et surveiller l'apparition des bourrelets, puisque en fait, un enfant peut être assez grassouillé à l'âge d'un an. Ensuite, il s'amincit et à partir de l'âge de 5-6 ans, ça recommence un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle l'âge du rebond d'adiposité. Donc, le conseil qu'il est important de suivre, premièrement, c'est de peser et de mesurer son enfant au moins deux fois par an. Alors ça, normalement, c'est le boulot du pédiatre ou du médecin traitant. On peut aussi le faire chez soi. Et puis également, regarder l'apparence de son corps. Voilà. Et donc, on va reporter ces points de corpulence. D'ailleurs, chacun peut la calculer soi-même. En divisant le poids en kilos sur la taille au carré, donc en mètres carrés, on obtient un chiffre que l'on va donc placer sur la courbe de corpulence qui se trouve à la fin du carnet de santé. Et on vérifie bien que ce point-là se trouve bien dans le couloir de normalité, entre guillemets. Voilà, c'est un couloir qui est un petit peu large, de façon à tenir compte de la différence entre chaque enfant. Et si le point se trouve en dehors de ce couloir et s'approche du couloir du surpoids, il ne faut surtout pas hésiter à en parler à son médecin ou à son pédiatre, car tout surpoids de l'enfant ne peut que s'aggraver si on ne s'attaque pas à la cause.
Oui, c'est ça. Donc il faut s'alarmer assez vite. Vous voyez de plus en plus d'enfants obèses arriver à votre cabinet en ce moment ?
Oui, on le sait bien, c'est un problème qui s'aggrave de plus en plus. D'une part, du fait d'une mauvaise alimentation, mais également, et ça c'est très préoccupant, en raison de deux points essentiels qui ne font que s'aggraver, la sédentarisation progressive des enfants et le manque de sommeil. Voilà.
Oui, et alors la sédentarisation, c'est sûr que le Covid n'a pas aidé, hein.
Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, on voit exploser la prise de poids, aussi bien d'ailleurs chez les adultes que chez les enfants. Mais le manque de sommeil est également quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, car on s'aperçoit que les enfants se couchent de plus en plus tard. Or, un jeune enfant devrait avoir besoin d'environ 9 à 10 heures de sommeil par nuit. Voire même 11 chez certains enfants. Et donc, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants sont plutôt à 7 ou 8 heures de sommeil.
Mais il y a un lien entre le manque de sommeil et l'obésité ?
Oui, c'est clairement démontré. D'abord, ça change les comportements, ça augmente l'envie de manger sucré et d'avoir beaucoup plus de féculents aussi dans l'assiette. D'autre part, ça fatigue, et un enfant qui est fatigué est un enfant qui n'a pas envie de se dépenser. Et d'autre part, le stress pour le cerveau que représente le manque de sommeil augmente la sécrétion d'une hormone qui s'appelle le cortisol et qui stimule la synthèse de cellules graisseuses dans le ventre. Donc tout est là pour que l'enfant grossisse.
D'accord. Alors, comment aider ces enfants et leurs parents? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment faire?
Alors, d'abord, nous sommes dans une période d'éducation, donc il est très important que les parents habituent les enfants à des bons comportements. Au niveau des comportements alimentaires, il faut toujours que les enfants fassent des repas équilibrés, sains. Alors, bien sûr, en théorie, les gens le savent, mais en pratique, c'est tout simple. Il suffit de prévoir beaucoup plus souvent des légumes aux différents repas, de façon à ce que l'enfant soit moins tout féculent. Donc, avec les pâtes, on met de la ratatouille. Avec les épinards, on peut mettre des flageolets. Ou avec les haricots verts, des flageolets.
Et quand on parle de légumes, justement, on ne parle pas de pommes de terre.
Exactement, ni de petits pois. Hein.
Voilà.
Donc, on y va sur les... Alors, que ce soit des légumes crus ou des légumes cuits. Donc, on les prévoit à chaque repas, aussi bien à midi que le soir. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça peut être des crudités, ça peut être de la salade verte, ça peut être de la soupe le soir, ça peut être des légumes cuits en accompagnement des féculents dans l'assiette. Voilà. Donc, de facto, l'enfant mangera moins de féculents. Par ailleurs, au dessert, on remplace les desserts sucrés par un fruit. On est en période de clémentine, c'est absolument délicieux. Et franchement, les enfants aiment les fruits. Donc, il ne faut pas se sentir obligé de leur proposer systématiquement des crèmes dessert au chocolat. Oui. Un très bon fruit de saison, c'est parfait.
Donc, on réapprend à s'alimenter normalement. Et d'autre part, je vous laisse conclure assez rapidement. Oui, quel est l'autre conseil que vous voulez donner?
Alors surtout, c'est une heure de sport tous les jours. Voilà. Hein. Et on remplace l'heure dans le fauteuil à regarder l'écran pour les jeux vidéo. On la remplace par une heure de sport, cette heure-là. Et on couche les enfants tôt, au plus tard à 21h30.
Super. Bon, voilà. Et ben c'est déjà ça. Et puis, merci beaucoup pour tous vos conseils. Pardon de ne pas avoir plus de temps à vous consacrer. On y reviendra de toute façon très certainement une autre fois. Je rappelle, docteur Plumet, que vous êtes aussi auteur du livre « Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes en soi, c'est tout un programme. À l'étranger, les Nations Unies exigent que l'armée birmane cesse d'assassiner les manifestants. Il y a eu au moins 54 morts depuis le coup d'état militaire et 1700 personnes ont été arrêtées. Le prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth, a été opéré d'un problème cardiaque à l'hôpital Saint-Bartholomew's de Londres, où il était transféré lundi. Le duc d'Édimbourg est âgé de 99 ans.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons au Pays Basque. Il y a quelques jours, des écobuages ont mal tourné et 800 hectares de végétation sont partis en fumée autour de la montagne de la Rune. On a retrouvé des animaux carbonisés et notamment des potiocs, ces petits chevaux basques élevés en liberté. Depuis, Philippe de Maria, eh bien, on se mobilise pour sauver les animaux qui n'arrivent pas à se nourrir.
Exactement, c'est un élan de solidarité spontanée. Des riverains amoureux de leur montagne ont voulu réagir, faire quelque chose pour ne pas rester impuissants face à ce désastre écologique. C'est tout un habitat, réserve de nourriture, détruit pour la faune survivante, celle des chevaux sauvages, vous le disiez, des petits rongeurs, des oiseaux qui ont pu fuir les flammes. J'ai joint Maxime Maréchal, un simple amoureux de sa montagne qui a fédéré les bonnes volontés. Une tonne de nourriture a été d'ores et déjà récoltée et larguée en paramoteur.
On a des images aériennes, c'est impressionnant. C'est ravagé. On a mis en place cette collecte de nourriture. On a fini par lâcher la nourriture avec des filets qui revenaient avec nous au sol, de manière à ne pas créer de pollution. On a mis des fruits à coque, un petit peu de croquettes pour les hérissons aussi, et des fruits pourris pour pouvoir reconstituer la population d'insectes assez rapidement et réalimenter ces mêmes hérissons et les oiseaux. Je pense que c'est pas mal, mais c'est un peu notre environnement. C'est notre jardin à tous, la montagne. On y est tous le week-end. On va rebooster la chaîne alimentaire et après on va rebooster la végétation.
Et oui, car la prochaine étape sera récolter des fonds via une cagnotte en ligne pour replanter un maximum de végétation sur la montagne La Rune, ce monument naturel du Pays Basque, aimé de tous, Christelle.
Aimé de tous et de moi aussi. Merci Philippe de Maria. Et on retrouve Pascal Pro. Pascal, vous en parliez tout à l'heure dans les titres, la petite phrase de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sur les querelles dans l'équipe de France féminine. Cette phrase vous plaît déjà? Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. Alors,
c'est vrai que c'est pas délicat. Je suis toujours étonné. Alors, c'est pas non plus... comment dire, il y a des choses plus graves.
Oui, on est d'accord. Ça me fait plaisir.
Voilà, il y a des choses plus graves. Mais en même temps, je suis étonné que dans le climat du jour, un homme qui a des responsabilités de Noël Le Graët ne sente pas le danger avec une telle phrase. Par exemple, vous comme moi, on est à l'antenne. Très souvent, on dirait pas ça. On verrait bien le danger à dire ce genre de choses. On fait un peu attention à ce que nous disons. Parfois,
moi, je ne me verrais pas dire ça du tout, mais bon.
Oui, donc même dans la vraie vie, on dirait, voilà. Je crois qu'on dirait pas ça. Non, que celle de l'antenne soit une fausse vie. Mais en tout cas, ça fera réagir. Le sujet mais qui m'intéresse beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce jeune homme de 21 ans, mis en examen quelques jours après l'agression d'un photojournaliste dans un quartier sensible de Reims. Ce jeune homme a 21 ans, il est de nationalité algérienne, il a une carte de séjour espagnole et c'est pourquoi il était en France avec les accords de Schengen. Eh bien, ce jeune homme a été déjà condamné à 8 reprises par la France. 8 reprises. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en France ? Pourquoi est-il toujours sur le sol français ? Il avait été condamné notamment pour des faits de violence en réunion et des vols avec effraction. Donc vous pourrez réagir sur ce sujet.
A tout de suite. La météo, Peggy Broche, les températures dégringolent.
Oui Christelle, écoutez bien, 10 degrés de moins qu'hier à Lille. Seulement 7 prévus aujourd'hui. 9 à Cherbourg, 12 à Paris, 13 à Besançon, 14 à Lyon, 15 à Marseille, 17 à Ajaccio et 18 à Bordeaux et Biarritz. Côté ciel, c'est très nuageux, hein, sur toute la moitié nord avec quelques averses. Pas grand chose, mais bon, il y en a encore sur les frontières du nord, entre l'Alsace, Franche-Comté et le nord de l'Auvergne. Et avec l'arrivée de l'air froid, il y a même quelques flocons sur les Vosges à 1200 mètres. Dans le sud, c'est un ciel plus ou moins voilé, mais quand même lumineux vers la région Midi-Pyrénées. Et c'est du beau temps entre la région PACA et la Corse, mais ça reste chargé sur le Languedoc-Roussillon.
Et demain, une petite amélioration
quand... Oui, amélioration qui va arriver par le nord, sur l'extrême nord le matin avec du soleil. Sur le reste de la moitié nord, ce sera encore bien chargé le matin et quelques averses sur la région Rhône-Alpes en remontant vers le Grand Est et même de la neige en montagne sur tous les massifs. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer près de la Manche également. Et puis sur le reste de la moitié nord-ouest, ce sera plus lumineux. Ça restera humide avec de la neige encore sur la façade est. Et toujours un ciel voilé mais légèrement dans le sud. On aura même plus d'éclaircies sur le Languedoc-Roussillon. Tout ça sous des températures qui vont encore baisser de 6 à 10 degrés au nord et 12 à 17 au sud.
Voilà, on remet une couche supplémentaire.
Exactement.
Merci Peggy. Dans un instant, le rappel des titres.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et on va revenir évidemment sur ce jeune homme de 21 ans mis en examen quelques jours après l'agression d'un photojournaliste dans un quartier sensible de Reims. Il a déjà été condamné à 8 reprises. Il est de nationalité algérienne, je le rappelle. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes policier. Est-ce que ça vous choque ?
Non, c'est juste une conséquence en fait du manque de place en prison et puis parfois de l'incurie de la justice à pouvoir aller traiter au fond des choses certaines affaires de violence.
Eh bien, on va approfondir ce sujet, mais d'abord le rappel des titres avec Christelle.
L'Organisation mondiale de la santé déplore une remontée des cas de Covid en Europe après 6 semaines de déclin, plus 9% la semaine dernière. Jean Castex doit annoncer à 18h le confinement le week-end du Pas-de-Calais. Pas de mesures de ce type en Île-de-France et des restrictions seront appliquées dans les départements les plus touchés au cas par cas. Emmanuel Macron veut rendre le vaccin obligatoire pour les personnels soignants dans les hôpitaux et les EHPAD. D'après nos confrères des Échos, le chef de l'État l'a demandé hier en Conseil de défense. C'est une piste en débat. Rien n'est décidé pour l'instant, nous indique l'entourage du président. Édouard Balladur relaxé du financement au culte de sa campagne présidentielle perdue en 1995. En revanche, François Léotard, son ancien ministre de la Défense, a été condamné par la Cour de justice de la République à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Le pape François arrivera demain en Irak pour un voyage historique de 3 jours dans tout le pays. Il a envoyé un message très personnel aux Irakiens. Je viens comme pèlerin implorer du Seigneur pardon et réconciliation après tant d'années de guerre et de terrorisme.
Les auditeurs ont la parole